16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces comédiens devenus politiciens. Après Ronald Reagan et Medina Mercouri, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un humoriste devenu président et qui est actuellement au pouvoir.
Oui Stéphane, vous connaissez évidemment le président ukrainien.
Brejnev.
Non, Stéphane, l'eau a coulé sous les ponts. Stéphane, l'Ukraine n'est plus soviétique, elle n'est même plus russe, enfin pour le moment. Et elle est dirigée par le type dont je vous parle aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Mais d'abord, petit rappel, qu'est-ce que l'Ukraine? Qui sont les Ukrainiens? Si vous voulez Stéphane, c'est comme des Russes, mais...
Ceux qui ne sont pas bolcheviques.
Voilà, je crois que c'est faire preuve d'un bel esprit de synthèse que de résumer les choses ainsi. Longtemps, l'Ukraine a été dirigée par des présidents normaux, en costume cravate, très sérieux, amateurs de parades militaires, et puis, il y a eu l'élection de 2019. Une véritable révolution, puisqu'a été élu avec pas moins de 73% des voix un type de 41 ans qui n'avait jamais fait de politique de sa vie, mais qui pourtant, quelque part, avait déjà été président de la République. Est-ce que vous comprenez comment, Stéphane ?
Il jouait à être président.
Exactement. Avant de briguer la fonction suprême, Volodymyr était humoriste, producteur de fiction, et il était devenu une énorme star en Ukraine en incarnant à l'écran un prof devenu président de la République. Je vous disais tout à l'heure que c'est comme si Joey Tribbiani de Friends était devenu président des États-Unis. C'est pas tout à fait exact, puisque dans Friends, Joey ne devient pas président des États-Unis. C'est plutôt comme si Stéphane Bern devenait vraiment lieutenant de brigade criminelle en Lorraine.
Oh les mains !
Cet exemple vous permet de mesurer le degré d'improbabilité. C'est juste pour mesurer l'improbabilité du truc qui s'est passé en Ukraine en 2019. L'humoriste le plus célèbre du pays, le Jamel Debbouze de Kiev, qui avait longtemps interprété ce président cool issu du peuple, devenait pour de bon président cool issu du peuple. Volodymyr naît en 1978 dans le sud-est du pays. Ses parents sont des scientifiques besogneux. Lui n'est qu'un adolescent au moment de l'indépendance de l'Ukraine en 91. Après avoir décroché un diplôme de droit, il commence sa carrière d'acteur à la fin des années 90 dans des concours de stand-up, puis se fait remarquer dans des films un peu populaires, avant de devenir donc producteur et acteur de sa propre série, la fameuse Serviteur du peuple. Et il y incarne donc un prof d'histoire devenu chef d'État après avoir dénoncé la corruption endémique, un chef d'État très sympa qui prend le bus, qui jette la patronne du FMI dans une piscine, et les téléspectateurs se régalent. En 2019, certainement après avoir écouté une chronique de David Castello-Lopez, il se dit « Tiens, mais vas-y, le président actuel est tout pourri, les gens m'adorent, pourquoi je ne deviendrai pas président, mais pour de bon ?» En mai 2019, la réalité rattrape la fiction, il est élu sur un programme assez clair. Un, il promet de maintenir le cap pro-occidental fixé en 2014, et deux, il est cool, man. Avec lui, fini l'avion présidentiel officiel. Il va voyager sur des vols réguliers en classe économique, Stéphane.
Quelle horreur.
L'administration présidentielle, historiquement logée dans un immense bâtiment soviétique à Kiev, il va la déménager dans un immeuble éco-responsable où les bureaux seront en open space. La tradition qui consiste à afficher un portrait du nouveau président dans chaque bureau administratif. Au chiotte, Stéphane, je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux, car je ne suis ni un dieu, ni une icône, mais plutôt un serviteur de la nation. À la place, accrochez plutôt des photographies de vos enfants et regardez-les dans les yeux avant chacune de vos décisions. Et oui, fini de rire pour feu le clown, Volodymyr n'est visiblement pas là pour déconner. Sa décontraction n'est que de façade. Certes, il évolue souvent en simple chemise, sans cravate ni veste, vient au bureau en Tesla, mais Volodymyr est un gros bosseur qui, dans un premier temps en tout cas, fait ce qu'il a annoncé, à savoir il dissout le Parlement corrompu et limoge tous les fonctionnaires corrompus qui est dénoncé dans la série. Ça fait du monde. En fait, il vire quasiment tout le monde. Le nom de son parti, alors ça aussi c'est fou, il s'est pas foulé, c'est le nom de la série. Serviteur du peuple, c'est le nom du parti. Comme si Kadmerad se présentait à la présidentielle et qu'il appelait son parti Baron Noir. Bon, le début de son mandat est prometteur, notre comique ne manque pas d'énergie, mais très vite les choses se compliquent. On lui reproche d'abord d'être la marionnette, pour ne pas dire le toy boy de Donald Trump, qui lui aurait demandé de relancer une enquête sur ses rivaux politiques. L'affaire fera scandale en Ukraine et beaucoup de ses électeurs se sentiront trahis. En mars 2020, Volo change son gouvernement dans un sens complètement inattendu. En effet, il renvoie des ministres réputés pour être réformateurs et nomme à leur place des figures du régime Yanukovych réputées corrompues. Donc là, on ne comprend plus rien. Son image de pourfendeur de la corruption en prend un sacré coup. Vis-à-vis du voisin russe, là aussi, il a changé de discours. Au départ, il se présente comme un partisan du dialogue et d'une diplomatie humanitaire dans l'est du pays. Une vision qui lui vaudra des accusations de tropisme pro-russe de la part d'une société civile à fleur de peau. Du coup, cette année, Volo a changé de cap en adoptant un ton plus dur. Cela dit, tous les présidents ukrainiens ont cette trajectoire. Ils commencent progressistes et finissent conservateurs. Vous l'aurez noté, Stéphane, à moins que non, vu qu'en début de chronique, vous confondez les Ukrainiens avec les Soviétiques. Bon, en tout cas, le destin de Volodymyr prouve que décidément, ce siècle est celui de tous les possibles. Stéphane, vous aussi, qui sait un jour, vous briguerez peut-être la fonction suprême. Vos propositions...
En Ukraine ?
Ah non, chez nous ! Vos propositions seront-elles aussi chocs que celles mises en place par Volodymyr ? Provoqueront-elles un tel séisme sociétal ? Vous avez déjà, je crois, votre première mesure.
Qui a décidé que des frères et sœurs n'avaient pas le droit de s'aimer ?
Ah oui, ça risque de faire parler, c'est clivant, mais c'est disruptif, ça peut marcher. Berne 2027, où est-ce qu'on adhère, Stéphane ?
Non, jamais.
Les moi, frères jamais. Et sœurs pourront...
Non.
Ah, c'est.
Moi, oui, moi,
c'est,
je vous rappelle que c'était
pas, comme dans l'Égypte antique.
C'était une chronique de
oui,
Clémentine.
C'était une chronique, enfin, c'est sorti de
votre
bouche.
Et on avait
oui,
rappelé que les frères et sœurs en
oui,
Égypte, dans
sous
l'Égypte antique.
Sous certaines latitudes, oui.
Mais maintenant, ça s'appelle de l'inceste.
Oui, oui, très bien.
Et c'est proscrit. Enfin, oui, c'est interdit.
Bien sûr, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, chers auditeurs, Berne 2027.
Non. Jamais. Merci, Mathieu.